Europe 1. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Jean-Hervé Lorenzi.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur du Cercle des économistes et le président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous êtes l'auteur, entre autres, de La Grande Rupture, coécrit avec Alain Villemeur chez Odile Jacob en 2021. L'INSEE a annoncé cette semaine que le déficit public français avait fini par atteindre 5,5% du PIB en 2023. On est très loin de l'objectif fixé par le gouvernement, hein, de 4,9% de déficit, ça donne 154 milliards d'euros de déficit. Comment on en est arrivé là, à votre avis ?
La réalité, c'est plusieurs choses. La première, c'est que une partie des arguments du gouvernement sont justes. Il y a un ralentissement de la croissance au dernier trimestre qui est très très significatif, qui d'ailleurs nous amène à réfléchir sur ce qu'il faudrait faire. L'absence de croissance, c'est jamais bon. Il y a le fait que, au fond, le gouvernement n'a pas fait tout à fait les réformes et les réductions de dépenses qu'il avait envisagées. Et puis, alors, plusieurs remarques. Ce qui est très frappant dans cette opération, c'est d'abord l'importance de l'erreur, du diagnostic. 0,6 points de croissance, c'est très rare. Hein. Je crois même que ça n'est jamais arrivé. D'une des différences, de se tromper sur... Alors, est-ce qu'on s'est trompé ? Est-ce que la direction du budget a été à côté
trop plaque ?
Trop optimiste, tout ça. Moi, je ne suis pas là pour dire du mal de qui que ce soit, mais c'est quand même curieux.
Pour résumer, moins de croissance, ça veut dire moins d'impôts de production. Moins de consommation, ça veut dire moins de TVA. Et puis, il y a la crise immobilière aussi.
Oui, ça veut dire tout simplement, de manière synthétique, une croissance qui est très faible. Et on va y revenir, mais des gains de productivité, ce qui est beaucoup plus inquiétant, qui sont quasiment nuls. Donc ce qui veut dire, les gains de productivité, c'est ce qui permet la croissance, parce qu'on est, on produit bien, on produit de manière efficace, etc. Ça, c'est très ennuyeux. Deuxième remarque, le 5,5 est énorme, 150, mais... C'est pas ça, contrairement souvent ce qui est dit, qui va faire que la France va s'effondrer, que l'Europe entière va venir à notre chevet, que nous sommes une sorte de Grèce bis. C'est pas du tout crédible. Troisième aspect, il y a des problèmes de très court terme. Il faut éviter, non pas tellement, parce que ça aura des effets majeurs sur le coût de la dette, mais tout simplement parce que ça fait pas une bonne impression, c'est ce que les agents de notation, dans quelques semaines,
risquent de dégrader.
Dire. Donc il va y avoir évidemment une réaction, un besoin de réaction d'annoncer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est annoncé, ou ce qui était annoncé, moins 10 milliards, voilà, c'est quand même...
D'économie.
Très éloigné des chiffres qui, par exemple, sont demandés par la Cour des comptes, qui exige, la Cour des comptes n'exige rien, mais suggère fortement qu'on fasse moins 50 milliards tous les ans. Donc, on est dans un dispositif qui a un caractère, j'allais dire, un peu exagéré sur la dramatisation, ennuyeux sur la prospective et les calculs, ennuyeux, alors beaucoup plus sur la réalité de la croissance et la réalité de la productivité, des gains de productivité, parce que ça, c'est l'avenir. Ne pas oublier que si on serre trop la vis, les effets négatifs peuvent être beaucoup plus importants que les effets positifs. Et une des hypothèses qu'il faut écarter tout de suite, c'est qu'on se retrouve avec 3-4 ans de stagnation totale. Et je ne vous dis pas, avec tout ce qu'il faut investir dans le domaine du climat, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine du vieillissement, qui est majeur, c'est la dépense la plus importante, comment on va régler tout ça ?
Et la défense. Hein.
Et la défense, vous avez tout à fait raison.
Et les Jeux Olympiques.
Enfin bon, on les accumule.
Il n'y a pas que nous qui les accumulons, hein, l'État aussi. La dette publique a explosé, plus de 3 000 milliards d'euros, 110% du PIB. Cela fait 50 ans que l'État accumule les dettes.
Oui, donc c'est une très vieille histoire. Il faut quand même que vous sachiez que vous souvenez la crise de 2007-2008 terrifiante avec de la régulation mondiale absolument géante, tout est organisé pour qu'il n'y ait plus jamais ça. On a augmenté de manière de plus de 50% la dette mondiale publique et privée. Donc on n'est pas les seuls sur la table.
Non, non.
Le monde fonctionne sur la dette. Non, mais, c'est pas bon.
Mais quand
pas...
même, les dépenses publiques en France sont restées à 57% du PIB. C'est 2 points de plus que ce qu'elles étaient en 2019 avant le Covid. Alors que ça représente 50% en moyenne dans l'Union européenne. On est 7 points au-dessus quand même.
Alors, pardon, de non pas de vous corriger, mais de préciser quelque chose.
Si je me trompe.
Quand on parle des dépenses publiques, c'est toujours un peu compliqué, parce que il y a en gros 20-25% qui sont des dépenses au sens strict, pour la défense, pour tous les sujets, et tout le reste, c'est des transferts sociaux.
Absolument, c'est ce qu'on oublie toujours.
Oui. Ce qu'on oublie toujours. Et vous voyez bien que dans les efforts évidents que tout gouvernement de droite, de gauche, du centre va devoir faire, évidemment, on va plutôt taper sur la protection sociale, c'est ce qu'on a vu il y a trois jours avec M. Attal, sur les problèmes d'assurance chômage, c'est plutôt là-dessus, d'abord parce que c'est énorme, parce que dès qu'on bouge un sujet, on rajoute 3-4 mois, on enlève 3-4 mois de problèmes d'assurance chômage, on est tout de suite dans des milliards, alors que si vous enlevez des véhicules au ministère des Finances, vous allez avoir 12 millions, 14 millions.
Pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs, mais ils le savent parce qu'on en a souvent parlé dans cette émission, les services publics, le nombre des fonctionnaires, ça ne représente qu'un tiers des dépenses publiques. La part de la richesse nationale que nous leur consacrons est moindre qu'à l'époque de Giscard d'Estaing. Ce qui augmente, ce sont les transferts vers le privé, donc vers les ménages et vers les entreprises. Ça, c'est deux tiers des dépenses publiques, notamment les retraites, la sécurité sociale, le chômage et les aides en tout genre.
Vous voyez bien que vous allez poser évidemment la question, est-ce qu'on va augmenter les impôts ? La question n'est pas celle-là.
C'est ce que tout le monde se pose en ce moment.
Mais la réponse est évidente, pas aujourd'hui, peut-être pas demain, avec des formes qui vont...
C'est
bien,
tabou, on va dire c'est tabou.
Ça va être tabou,
ce
mais dans la réalité, évidemment qu'on va faire ça. Sur qui ça va porter ? À condition... Ce sera accepté à condition que ce soit considéré comme un bloc d'une vraie politique de rigueur. Si on fait une politique de rigueur, on se contente pas juste de toucher les chômeurs, mais on touche aussi les entreprises qui ont des super profits, on touche deux, trois trucs, on augmente peut-être deux ou trois taux de TVA, enfin, faire un vrai plan de rigueur pour que ça soit acceptable, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Mais un des sujets, vous venez de l'évoquer, 14% du PIB sont dédiés à des gens comme moi, c'est-à-dire des retraités. Vous imaginez bien que je suis prêt à défiler pour qu'on ne baisse pas ma retraite. Mais dans la réalité, il y a des petites retraites, il ne faut pas y toucher. Ça, c'est vraiment un problème d'équilibre social dans le pays. Et puis, il y a pas mal de gens. Pourquoi la CSG des retraités serait inférieure à celle des autres? Je vais me faire assassiner en disant ça. Mais dans la réalité, c'est absurde. Donc, c'est là-dessus que ça va bouger. On va bouger. Et là, ça fait tout de suite des sommes très importantes. C'est-à-dire que si on veut se rapprocher des 20, 30, 40 milliards qu'il va falloir mettre sur la table, c'est plutôt comme ça qu'il va falloir procéder.
On fait une pause sur Hervé Lorenzi et on y retourne.
Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce matin avec l'économiste Jean-Hervé Lorenzi. On parle du déficit public qui a atteint 5,5% du PIB en 2023. La France, il faut bien le reconnaître, dépense plus que ses voisins de l'UE hein, pour les retraites, d'où la réforme des retraites, pour le chômage, d'où la réduction de l'indemnisation chômage voulue par Gabriel Attal, pour la santé via la sécurité sociale, mais aussi pour le logement, pour l'environnement et pour la défense. Et ça se au détriment de l'enseignement, de la recherche, des transports et de la sécurité intérieure. On fait des choix, au fond. Hein. Un gouvernement, ça fait des choix.
Oui, on fait des choix, mais vous voyez bien qu'il faut faire des choix, j'allais dire, qui sont à la mesure des sujets. Je prends les retraites. Je ne peux pas dire que je sois biaisé, puisque je suis moi-même retraité. Donc, je n'ai pas d'avantage à défendre. Vous voyez bien qu'on doit dépenser 14%. On fait une réforme des retraites. Je ne reviens pas sur cette réforme des retraites. Mais elle va toucher pas grand-chose en réalité. Elle va, on s'aperçoit que les retraites, en 2030, augmenteront de 50 milliards d'euros. 50 milliards. Là, on est tout de suite sur des sommes qui sont celles sur lesquelles on peut jouer. Et la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles, en fait, on a ce problème dans notre pays, c'est que le taux d'activité de notre pays, c'est-à-dire le nombre de gens qui travaillent, et ça ne va pas s'améliorer, est nettement plus faible que celui de nos voisins, et notamment, on prend toujours la comparaison allemande, mais c'est très significatif. Quand on prenait, au moment de la réforme des retraites, l'idée qu'entre les gens entre 60 et 63 ans, 64 ans, travaillaient très peu, pas parce qu'ils n'ont pas envie de travailler très peu, c'était un tiers de la population, alors qu'en Allemagne, c'est 60%. Donc, sur tous ces sujets, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes macroéconomiques majeurs qui sont, au fond, la fin de notre modèle français. Ça ne veut pas dire qu'il était mauvais, ça veut simplement dire qu'il est maintenant plus adapté à la situation de vieillissement, qui est géant comme problème. C'est le premier problème de notre société, d'où l'histoire des retraites, etc., mais abordée un peu de manière marginale pour le moment. Deuxième sujet sur le problème, évidemment, de ce qu'il faut faire pour la décarbonation. Troisième sujet, on veut être bon en intelligence artificielle et on veut gagner de la productivité. Et donc, on retombe sur taux d'emploi, comment est-ce qu'on booste l'emploi dans notre pays et comment on pousse les gens finalement à avoir envie de rester plus longtemps au travail. Productivité, quand on prend tous nos chiffres par rapport à tous nos voisins, on a moins de robots, on investit moins, on a quand même toute une série de problèmes. Et ce sont, au-delà de ce qui va se passer dans les 3 mois, pour que les agences de notation ne nous tapent pas sur les doigts. Donc on va faire un peu de gesticulation pour dire qu'il faut s'arranger. Mais ce sera, quoi qu'il arrive, assez marginal. On va baisser 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, c'est énorme. C'est pour les gens qui seront touchés, mais dans l'ordre de grandeur, c'est pas énorme. En revanche, le fait qu'on aboutisse à notre fin, au fond, de mode de croissance, qui débouche sur ces 5,5, qui ont un mérite, c'est celui de dire, bon, maintenant, ça peut pas continuer comme ça. Avec des services publics qui sont bourrés de gens formidables, mais les gens sont pas contents, notre éducation, la santé, tout ça...
C'est normal, on leur consacre une moindre part de la richesse nationale et que du temps de Valéry Giscard d'Estaing. Donc
ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On vit sur un modèle qui, honnêtement, coince. Et donc, c'est ça qu'il faut mettre sur la table. Je rappelle le taux d'emploi, donc l'attractivité de l'emploi, pas l'attractivité de l'économie française, l'attractivité de l'emploi qui, pour beaucoup de gens, il y a juste une formule, quand vous êtes au SMIC, il y a beaucoup de gens, ça consacre beaucoup de gens autour du SMIC, vous êtes scotché jusqu'à la fin de vos jours. La France a une caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de progression, il n'y a pas de trajectoire d'amélioration de son statut. La productivité, c'est qu'il faut investir beaucoup plus. Et puis, il faut poser les problèmes du vieillissement. Et le vieillissement, ça va être la dépense, tout ça. Ça va coûter très cher. Qui va payer? Pourquoi pas les gens qui sont concernés, c'est-à-dire, pour partie, les gens qui sont à la retraite et qui ont des belles retraites.
On peut donc en conclure que la France ne tiendra pas l'objectif du retour aux 3% de déficit en 2027, exigé par l'Union européenne. Il faudrait faire 70, 80 milliards d'économies. Personne ne nous en croit capable. On risque donc d'être dégradé par les agences de notation à la fin du mois d'avril. Et si c'est le cas, est-ce que ça risque de coûter plus cher à l'État pour emprunter sur les marchés financiers? Car je rappelle qu'on emprunte toujours davantage, ne serait-ce que pour financer la dette. En 2024, le besoin de financement de l'État va atteindre plus de 295 milliards d'euros.
Oui, mais alors, vous voyez, ça c'est la première partie, vous avez raison de le signaler. Maintenant, deuxième sujet, il se trouve que nous sommes un pays qui est considéré comme extrêmement solvable. On a une administration des impôts qui est incroyable, qui est tout à fait capable de récupérer exactement ce qu'il faut. Personne ne met en doute notre capacité de rembourser cette dette, même si elle croît. Et dans les faits, nous sommes en réalité une dette qui se paye pas très cher.
Mais qui risque de se payer plus cher.
Non.
Non.
Non, ça n'a pas été le cas lorsqu'il y a eu une première dégradation. Ça n'a pas été le cas non plus quand les États-Unis avaient aussi des gros problèmes. Les gens jugent sur la qualité de la dette, pas sur le fait qu'elle a 5% de plus, ou que M. Moody's ou M. dit que c'est pas bien.
Donc on va emprunter encore de plus en plus.
Non, pas du tout. Ça veut simplement dire que dans les arguments qu'on utilise, il y a des arguments qui sont très forts, c'est que on a des déficits publics qui correspondent finalement à une capacité de croissance qui est pas top. Donc c'est vraiment, c'est notre modèle qui va pas très bien. Évidemment qu'il va falloir réduire des dépenses, il y a des tas de choses. On investit partout dans les collectivités locales, des tas d'équipements collectifs.
Pardon de vous interrompre parce qu'il nous reste très peu de temps, Jean-Yves Lorenzi, mais sachant qu'augmenter les impôts, c'est tabou. On est déjà les champions du monde des prélèvements obligatoires, hein, 46% du PIB. Donc il va falloir faire des économies. Bruno Le Maire veut économiser 20 milliards d'euros par an d'ici 2027, il va bien falloir taper quelque part.
Mais on va taper, alors, un, quand même, je vous dis, il n'y aura pas d'augmentation sensible du coût de la dette, tout simplement parce qu'on est très solvable, et qu'en plus, tous les gens qui empruntent dans le monde empruntent sur dette Allemagne et France. Deuxième sujet, on va évidemment toucher sur le gros paquet, c'est-à-dire sur la protection sociale. C'est pas quelques bagnoles dans un ministère, dans un code ministère qui vont régler ce problème. Donc c'est pour ça que notre Premier ministre, il y a quelques jours, a commencé à évoquer quelque chose qui aurait été même imprononçable pendant 30 ans, c'était imprononçable de parler de passer de 18 mois à 12 mois, ce qu'il a dit, même l'évoquer pour le chômage, l'assurance chômage. Donc, et c'est là-dessus que ça va aller. Et puis, alors maintenant, il faut être comme des malades mentaux sur l'investissement, investir. En dernier mot, il y a beaucoup de dividendes, il y a beaucoup de rachats d'actions. Moi, les profits, ça me va très bien, vive les profits, mais qu'au discours que service, ils servent à investir. Il y a beaucoup d'épargne chez les Français, il faut les remettre à la consommation et à l'investissement. C'est tout ça qu'il faut remettre en branle.
Jean-Yves Lorenzi, merci. Je rappelle La Grande Rupture qui était paru chez Odile Jacob en 2021. Et puis il y a un nouveau livre qui vient de sortir, signé par vous et Alain Villemeur. C'est justement sur le partage vertueux entre salaire et profit, c'est le titre. Ça vient de paraître chez Economica.
Merci.
Et nous, on fait une pause et on retrouve Louis Chevalier. Il va nous rappeler ce qu'on a tous oublié. Je suis sûr que vous l'avez oublié aussi, Jean-Hervé. Aux Jeux Olympiques de 1924 à Paris, on n'y était pas ni l'un ni l'autre, mais il y avait une épreuve de littérature.